Bonjour à chacun de vous. J'aimerais ça vous entretenir ce matin sur un sujet que peut-être vous n'avez pas beaucoup entendu parler. Et ce mot qu'on va trouver bientôt maintenant sur l'écran, que vous voyez, ne se trouve pas écrit dans l'Ancien Testament. C'est bizarre parce qu'on ne retrouve pas ce mot-là et c'est l'apôtre Paul qui, le premier, a parlé sur ce sujet de la conscience. Et vous savez, autant que moi, en observant autour de chacun de nous ou même dans nos églises, comment nous pouvons dire aussi que, malheureusement, le sujet de la conscience est un sujet de maladie. Il y a cette maladie dans nos églises, et je ne sais pas pour vous ici, dans cette église, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur la conscience. Vous savez que même, on retrouve cela dans nos milieux, comme je le disais, que la conscience, ce n'est pas souvent parlé. On n'ose pas aborder le sujet de la conscience. Je sais qu'il y a beaucoup de psychologues puis de théologiens qui ont étudié sur ce sujet. Et moi, étant pas non plus ni l'un ni l'autre, je vais juste aborder le sujet et j'espère que, et ma prière, lorsque j'ai eu cette invitation pour venir parmi vous, c'était que le Seigneur puisse parler à vos cœurs. Je ne suis pas là pour essayer de viser personne, mais ce matin, j'aimerais ça que chacun de nous, on ouvre nos cœurs parce que comme on a chanté, et j'étais vraiment heureux, et les personnes ne savaient pas le sujet de mon message ce matin, mais vous savez, dans notre prière, on a demandé au Seigneur de purifier nos cœurs. Et comment est-ce que le Seigneur peut purifier nos cœurs? C'est en sondant nos cœurs et en voyant des choses qui, oui, sont pour sa gloire, mais que quelquefois aussi, il peut s'y trouver dans nos vies des choses qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Et ce matin, je ne vais pas viser personne parce que je me suis, premièrement, lorsque j'ai préparé ce message, je me suis vraiment senti concerné par ces paroles que le Seigneur a adressées. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Timothée au chapitre 1er. 1 Timothée, chapitre 1er, puis le verset 5, qui est le verset de base pour notre étude de ce matin. 1 Timothée, chapitre 1er, et le verset 5. Premier Timothée, chapitre 1er et le verset 5, on lit, et c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée en lui disant, « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Alors, la bonne conscience, c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait trouver puis expliquer ça? Eh bien, dans le Larousse 2012, c'est dit ceci, c'est avoir une connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir du monde extérieur ou de soi-même. C'est un sentiment qui est intérieur, qui pousse à porter un jugement sur nos valeurs, nos propres actes, dans le sens du bien et aussi du mal. Et parmi les expressions les plus souvent entendues sur la conscience, on a celle-ci qui dit « avoir une bonne conscience ou avoir une mauvaise conscience ». Donc, ça veut dire « n'avoir rien ou avoir quelque chose à se reprocher ». Il y a d'autres expressions que l'on retrouve aussi dans ce dictionnaire qui nous dit « avoir quelque chose sur la conscience », c'est-à-dire « avoir quelque chose de grave ». À se reprocher. Et vous savez, vous comme moi, nous sommes au milieu de ce monde et aussi, surtout, nous sommes entourés de nos frères et de nos sœurs. Et vous savez, une chose, une blessure extérieure, ça fait mal, puis c'est grave. Mais savez-vous qu'une blessure intérieure peut produire beaucoup plus de mal? Il y a un effet beaucoup plus profond qui va durer non pas que quelques instants, parce que si on vous frappe, dépendant de la place où on va vous frapper, bien sûr, ça va durer un certain temps. Mais, avec certains soins, on va s'en guérir. Mais il y a des brisures et des blessures intérieures qui sont très difficiles à produire une guérison. On va y revenir un peu plus tard là-dessus. Il y a aussi des cas de conscience qu'on appelle des situations qui sont délicates, des problèmes qui sont moraux et qui sont très difficiles à résoudre. Il y a aussi en son âme et conscience cette expression qui nous dit, hein, selon une intime conviction, lorsqu'on parle du jury, lorsqu'on choisit le jury pour... Lorsqu'il y a un procès, hein, ils doivent décider en leur âme et conscience, est-ce que cette personne est coupable ou non coupable? Alors, ce n'est pas toujours évident, puis ce n'est pas toujours facile non plus. Mais que dit la parole sur la conscience? Et vous comme moi, j'espère qu'on a à cœur les âmes. On veut que d'autres personnes viennent au Seigneur. On a parlé avant la réunion, vous en avez parlé, de tous ces objets qui vont être offerts, que ce soit à l'expo ou à d'autres occasions. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ont compris que c'était vraiment important d'emmener des âmes au Seigneur, des emmener à Christ. Et nous voulons en même temps aussi que notre Église ait un élan d'amour les uns pour les autres. N'avez-vous jamais entendu parler de cela quand on dit quelquefois, hein, « Il me semble que les chrétiens, on n'a plus cet amour qu'on avait autrefois les uns pour les autres. » Et j'aimerais ça vous poser la question, parce que moi, je ne vous connais pas personnellement, puis si le Seigneur l'a mis sur mon cœur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin spécial ce matin. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas parmi nous ce matin des frères ou des sœurs qui auraient été blessés intérieurement et qui n'ont pas vu, malheureusement, dans leurs frères ou dans leurs sœurs qui les ont blessés, cette attitude d'avoir une conscience qu'ils les ont blessés, que cela leur a fait mal. Peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin, moi je ne vous connais pas tous, je ne vous connais pas en particulier chacun de vous. Il y en a quelques-uns qui sont parents avec moi que je connais, mais je ne connais pas toute la vie en particulier. Il y a des choses secrètes, privées, mais il se peut que ce matin, il y en ait parmi nous qui marchons, allons quand même à l'Assemblée, à l'Église, et qui avons vécu une douleur parce que quelqu'un nous a blessés amèrement. Eh bien, demandons au Seigneur de nous parler ce matin à travers sa parole. Et comme je l'ai dit, chose surprenante, dans l'Ancien Testament, on ne trouve même pas le mot « conscience ». Mais dans le Nouveau Testament, on le retrouve et c'est un témoin intérieur qui rend témoignage au caractère qui est juste ou injuste des motivations ou des actions d'une personne. Ou bien sûr, dans l'Ancien Testament, vous ne retrouvez pas ce mot, mais si je vous parle de Joseph, j'en suis sûr, hein, que vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Ce n'est pas inconnu pour vous, vous l'avez lu dans le livre de la Genèse. Ce Joseph qui, par ses frères, qu'est-ce qui est arrivé, hein? On l'a vendu, on s'est débarrassé de lui. Pour eux, il était un peu nuisible. Et vous savez, le mot « conscience » n'est pas écrit dans l'histoire de Joseph. Si vous la lisez, vous ne verrez pas à aucune place qu'il ait écrit le mot « conscience ». Mais si vous lisez, par exemple, dans Genèse au chapitre 42, et à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, ça nous dit que les frères de Joseph, lorsqu'il y a eu une famine, ils sont allés où? En Égypte. Et où était Joseph après avoir été vendu? Il était là en Égypte et c'était lui qui s'occupait. Il était le premier presque du pays. Et voilà que ses frères sont là, face à lui. Ils ne le reconnaissent pas. Mais là, tout d'un coup, il y a des circonstances, vous pouvez les relire chez vous à partir de Genèse 40 et ainsi de suite, vous allez voir toute cette histoire, mais au chapitre 42, puis verset 21 à 24, ça nous dit, « Ils se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. » C'est la conscience qui travaillait. Il arrivait des circonstances dans leur vie, hein. Ils ont été jetés en prison, puis là, tout le questionnement est venu là. Pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, tout d'un coup, hein, la roulette se met à tourner dans leur tête, leur conscience, qui leur rappelle un geste qu'ils avaient fait. Il y a peut-être aussi des matières et réflexions pour nous, chrétiens. Pour moi, à un moment donné, je me suis posé la question. Est-ce que ma conscience est à l'aise avec ma conduite envers un tel frère ou envers une telle sœur? Est-ce que je suis à l'aise avec les paroles que j'ai usées envers un frère ou une sœur dans la manière que je lui ai répondu, que je lui ai parlé, que je les reverrai de bord? Est-ce que je suis en conscience et à l'aise avec tout cela? Ou est-ce que il n'y a pas quelque chose qui me parle et qui me rend témoignage, qui prononce un jugement, qui me rappelle certaines choses? Vous savez, ça m'est déjà arrivé d'avoir dit des paroles cinglantes à quelqu'un. Ça me faisait du bien, extérieurement, hein, à ma chair. J'étais content de moi-même. Mais, tout d'un coup, il y a une petite voix qui m'a dit, hein, Jésus, est-ce qu'il aurait agi comme cela? Est-ce qu'il aurait parlé comme cela à ce frère? Hein, ma conscience m'a rappelé, m'a ramené à la bonne juste, de valeur des choses. Et vous savez, ce jugement que la parole produit, elle peut être un sentiment de douleur ou un sentiment de bien-être. Quand je me retrouve en face d'une sœur ou d'un frère, est-ce que je suis à l'aise de lui parler? Est-ce que je suis comme le Seigneur, vraiment ouvert? Il n'y a rien qui brime la communion, la conversation avec ce frère et avec cette sœur. Je ne sais pas pour vous si c'est le cas. Mais il y a des fois, peut-être que ça nous travaille en dedans, puis on n'est pas toujours à l'aise avec ces choses-là. Mais vous savez, pour la conscience, c'est Paul, comme je l'ai dit, qui a été le premier dans le Nouveau Testament à nous parler de la conscience. Dans Romains, puis on ne prendra pas le temps de lire parce que l'heure avance, mais dans Romains au chapitre 2, verset 15, vous allez voir que Paul voit dans la conscience un témoin qui est intérieur à tout être humain, pas juste aux chrétiens, même les gens du monde. Ils ont une conscience qu'ils aient la loi de Dieu ou pas. Cette conscience, elle est là pour les accuser, les excuser, les approuver ou les désapprouver. Et puis Paul lit vraiment ce témoignage intérieur à cette loi de Dieu qui est écrite dans tout cœur humain. Qu'est-ce qu'on a à apprendre sur la conscience? Qu'avons-nous à apprendre sur la conscience? Eh bien, ce verset qu'on a lu ce matin ensemble, on a lu que le but du commandement, c'est un amour. Et c'est surprenant de voir que tant de chrétiens se demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'amour autour de nous, dans nos milieux, dit même les plus évangéliques. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas l'amour que les premiers disciples, que les serviteurs de Dieu avaient les uns pour les autres? Eh bien, vous avez la réponse devant vous ce matin. On l'a lu ensemble. D'où vient la charité? D'où vient l'amour que nous voulons avoir les uns pour les autres? Eh bien, ça nous vient de trois choses. Ça vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et aussi d'une foi qui est sincère. Je vais vous dire quelque chose ce matin et j'aimerais ça que vous vous rappeliez de cela tous les jours de votre vie. J'aurais beau avoir le plus beau don, j'aurais beau avoir le plus de potentiel dans l'Assemblée, j'aurais beau avoir le plus de connaissances. Mais vous savez quoi, mes chers amis? Si je n'ai pas l'amour pour mes frères et pour mes sœurs, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Vous connaissez très bien 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 et 2. Ça nous dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, qu'est-ce qu'il est dit? Si je n'ai pas la charité, qu'est-ce que ça dit? Je ne suis rien. » Vous savez, rien, hein? C'est moins qu'un zéro. C'est plus que zéro, c'est rien. Rien du tout. J'ai beau me prétendre être celui qui connaît tous les versets de la Bible, qui a le plus de potentiel, qui peut être le plus utile à l'Assemblée. Mais si dans mon cœur, je n'ai pas l'amour du Seigneur et l'amour pour mes frères et pour mes sœurs, je ne suis rien. Rien. Pour qui? Pour Dieu. Et aussi pour mes frères et pour mes sœurs. Et vous savez, c'est ma prière pour moi et aussi pour chacun de vous, que le Seigneur puisse faire de vous des personnes qui allaient avoir un cœur pur, une bonne conscience et aussi une foi qui est vraiment sincère devant Dieu. Et qu'est-ce qui va prouver que j'ai de la charité ou que j'ai une foi sincère? C'est ma bonne conscience qui résulte d'un cœur pur. Je ne peux pas avoir une foi sincère si ma conscience m'accuse d'avoir un cœur qui n'est pas pur devant le Seigneur, qui n'est pas pur. Et de prétendre le contraire, hein, ce serait de la folie furieuse. Ce serait un péché contre Dieu que de prétendre que je peux avoir de l'amour sans avoir un cœur pur, une bonne conscience et aussi une foi sincère. Vous savez, la conscience, elle est très précieuse pour toute personne. Car si mon cœur n'est pas pur, si ma conscience n'est pas bonne, et cela va affecter ma foi qui ne sera plus sincère, et il va en résulter, vous savez quoi? On en a beaucoup fait l'expérience, hein? Il va en résulter dans un manque de charité, un manque d'amour les uns envers les autres. Et on va brimer et on va mépriser ce deuxième commandement que le Seigneur nous a donné. Tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire ton frère et ta sœur, comme toi-même. Et vous savez, en 1 Timothée au chapitre 1er, les versets 18 à 20, il y a tout là un autre contexte pour ceux qui ne gardent pas une bonne conscience. Parce que, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que c'est important. J'en suis sûr que parmi vous, ceux qui sont responsables ou ceux qui travaillent du côté de la pastorale, vous avez vécu ça ou peut-être que si vous avez des amis intimes et qu'ils vous partagent certaines choses de votre vie, il y en a beaucoup qui vont vous partager à un moment donné dans leur vie, comment ils ont été justement blessés, comment est-ce que c'est qu'ils ont été humiliés à cause de l'attitude de certains frères ou de certaines sœurs. Vous savez, c'est triste de dire cela, mais malheureusement, ça arrive dans nos milieux évangéliques. Et on devrait, chacun de nous, veiller à faire attention à nos frères. Ils sont importants aux yeux de Dieu. On en a parlé dans la première réunion. Comment est-ce que Dieu trouve qu'on est important? Il a donné son Fils unique pour nous. Qui de nous peut dire qui est important? Qui de nous aux yeux de la société, avait une valeur importante, si importante que Dieu, du haut du ciel, a baissé ses yeux sur vous parce que vous le méritiez. Non, on ne méritait pas la grâce de Dieu. Notre frère a parlé de la grâce de Dieu. On ne méritait pas cette grâce du fait que Dieu allait nous aimer tels que nous étions, des pécheurs coupables devant lui. Et pourtant, Dieu nous aime et il a fait de nous ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Eh bien, que nous nous aimions les uns les autres, que nous mettions en pratique sa parole, que nous obéissions à sa voix, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait lui-même. Mais il y a un danger pour ceux qui ne gardent pas une bonne conscience, hein, c'est de faire naufrage par rapport à la foi, parce que cette bonne conscience, elle est pour le chrétien, vous savez, comme le gouvernail d'un bateau. Avec un bateau, lorsqu'on vogue, eh bien, ça prend un gouvernail en arrière et quelqu'un qui le dirige pour éviter de frapper des rocs, des récifs qui vont briser le bateau. Eh bien, dans notre vie chrétienne, on a besoin de cette bonne conscience pour nous aider à marcher dans notre marche chrétienne, à éviter justement ces récifs du péché et aussi de l'erreur que nous rencontrons constamment dans notre vie. Et vous savez, les faux docteurs de ce temps-là, ils faisaient taire leur bonne conscience et ils faisaient fi de la vérité. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient fait un naufrage par rapport à la foi chrétienne. Ayant fait un naufrage à la vraie foi et à la vraie doctrine, cela leur valut un désastre spirituel. Oh, bien sûr, ici, il n'est pas question de la perte du salut, parce que le salut du croyant est véritable, mais plutôt du triste sort qui était réservé aux apostats. Ils avaient eu, oui, l'occasion de fréquenter les églises, et ils avaient entendu prêcher l'Évangile, mais ils l'avaient rejeté en faveur d'une fausse doctrine qui est écrite dans les quelques versets auparavant, versets 3 à 7, de 1 Timothée. Et nous, nous savons que l'apostasie consiste vraiment à se détourner de la vérité après l'avoir connue. Qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes qui ont perdu leur bonne conscience? Eh bien, Paul a dû les livrer à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul a dû appliquer la discipline à l'intérieur de l'Église. Il a excommunié ces deux hommes, mettant ainsi un terme à leur influence et les privant de la protection qui était divine et salutaire dont bénéficient les chrétiens. Ils ne se trouvaient plus donc au bénéfice vraiment des bénédictions divines. Ils sont tombés sous le contrôle de Satan. Ils n'étaient plus protégés des attaques de Satan, mais tout cela avait lieu afin que ces personnes puissent, dans leur vie, se repentir et revenir à une meilleure conscience. Et vous savez, je vous mets ici quelques exemples que vous pouvez prendre en note. On n'aura pas le temps de tous les ces versets. Ça nous parle du roi Saül à cause de sa désobéissance. Il y a Judas. Il y a aussi le membre fautif de l'Église de Corinthe. Dieu les a livrés à Satan, les trois, pour qu'ils endurent un jugement. Ils ont eu, oui, des remords, mais pas des regrets qui conduisent à une vraie repentance et à une vraie foi en Dieu. Ils ne se sont pas occupés vraiment d'avoir une bonne conscience. Et vous savez, ce sujet de la conscience, on le retrouve, vous connaissez très bien ces versets dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. Encore une fois, je ne veux pas toutes les lire parce que le temps passe très vite. Mais on connaît lorsque ces pharisiens, ces scribes ont emmené cette femme qui avait été prise en adultère. Eh bien, on voulait que Jésus, d'un côté, puisse condamner cette femme avec la loi. Mais si Jésus faisait cela en condamnant cette femme par la loi mosaïque, eh bien, on aurait dit de Jésus qu'il n'avait pas de compassion, qu'il ne pouvait pas pardonner. Et on voit là vraiment la pensée, puis comment est-ce que c'est que la conscience de l'être humain est vraiment tordue. Mais dans Jean, au chapitre 8 et tout ça, on voit ce que c'est que Jésus déclare que ceux qui doivent opérer cette chose-là, ce sont les témoins. Mais aussi, un peu plus loin, on voit que lorsque Jésus, après avoir, leur avoir parlé, hein, chacun d'eux, accusé par quoi? Par leur conscience. Ils sont partis parce qu'il n'y avait que seulement ceux qui ne s'étaient jamais rendus coupables d'un tel péché qui pouvaient lapider cette femme. Mais j'en arrive au point où ce que c'est que nous disons maintenant pour Paul. Est-ce que c'était important d'avoir une bonne conscience? Acte 23, verset 1er, 24 au verset 16, on voit que c'est important d'avoir une bonne conscience. L'apôtre Paul s'écrit dans Acte 24, 16, « C'est pourquoi je m'efforce constamment. » Et vous savez, comme chrétien, on doit veiller, on doit s'efforcer constamment d'avoir une bonne conscience. Devant qui? Devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que je peux dire les mêmes paroles que Paul? Est-ce que je suis une personne qui m'efforce vraiment d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes? Quelques exhortations pour nous. Hébreux chapitre 10, il nous est dit que les cœurs purifiés d'une bonne conscience. En tant que chrétien, on a à veiller parce que le péché nous enveloppe si facilement. Alors il faut veiller sur notre conscience et il faut purifier nos cœurs d'une mauvaise conscience. Vous pourrez le relire chez vous. Dans 1 Pierre au chapitre 2, c'est la même chose. Pour ceux qui sont des serviteurs, qui ont un boss au-dessus d'eux, il leur est dit de supporter tout par motif de conscience. Et dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16, il est dit d'avoir une bonne conscience face aussi à la calomnie. Et je vais terminer avec ces trois résultats que j'espère que chacun de vous, après avoir entendu ce message ce matin, vous allez vraiment désirer avoir. Qu'est-ce qu'une bonne conscience va vous apporter? Le premier, d'avoir une bonne conscience va vous apporter d'avoir l'approbation de Dieu. Peut-être pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Avoir une bonne conscience va vous apporter l'approbation de Dieu. La deuxième chose que la bonne conscience va vous apporter, c'est aussi le privilège d'avoir l'assurance de Dieu, mais aussi l'assurance en Dieu. Que des chrétiens, quelquefois, nous disent « Je ne sais pas comment me présenter devant Dieu, je suis hésitant, puis je ne suis pas sûr si Dieu va écouter ma prière. » Un chrétien qui a une conscience pure, authentique devant Dieu, va avoir cette assurance que quand il prie Dieu, Dieu est à l'écoute. Il va être confiant dans ses prières et aussi dans sa vie, quelles que soient les circonstances. Et je peux le dire aussi, quelles que soient les épreuves, on est en sécurité parce qu'on est en toute bonne conscience devant Dieu. Et la troisième chose, on va connaître la paix et la joie dans sa vie quotidienne. Qu'est-ce qu'il y a de plus douloureux? Vous savez, quand on marche sur la rue et que tout d'un coup on rencontre quelqu'un, qu'on lui a fait quelque chose, qu'on a mal agi envers lui, et puis là, tout d'un coup, on arrive face à face avec lui. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la paix? Non. J'espère qu'on se sent mal à l'aise, que ça ne va pas trop bien à l'intérieur de nous. Eh bien, si je vous fais mal, en parole ou en action, et puis que je pense que Dieu m'approuve, vous savez, je peux vous avoir blessé, je peux essayer de montrer que je suis quand même un bon chrétien, venir aux réunions. Oui, tant bien que mal, je vais lire la Bible, parce qu'à un moment donné, si je la lis, et si nous la lisons, un jour ou l'autre, on va se sentir concerné, Dieu va nous parler. Dieu va nous pointer. Il va nous dire, hey, écoute, réveille. T'as blessé tel frère ou telle sœur, puis tu le rencontres, puis tout est bien pour toi. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Mais réalise, d'un côté, que quand tu as blessé ce frère et ce soeur, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, hein? Tout ce que vous allez faire à vos frères et à vos soeurs, mais qu'est-ce que dit le Christ? C'est à moi que vous le faites. Et on devrait être conscient de ça, hein? Quand vous venez me parler et que j'agis mal envers vous, vous savez, je le fais la même chose envers le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Tout ce qu'on fait à nos frères et à nos sœurs, hein, on le fait au Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide à réaliser cela. Il y a des églises, il y a des frères qui viennent nous trouver et qui nous parlent. Comment leur douleur est intense. Et moi, après que ces personnes, puis je leur propose d'aller régler la chose, d'en parler, parce qu'il ne faut pas garder ça à l'intérieur. Il y a des maladies, il y a des souffrances qui existent à l'intérieur de nous parce qu'on garde ce qu'un frère ou une sœur m'a fait. Mais ce n'est pas bien de faire cela. Peut-être que cette sœur ou ce frère ne réalise pas qu'il nous a blessés et qu'il nous a fait mal. Alors, c'est ma responsabilité d'aller la voir avec amour et de dire, écoute bien mon frère ou ma sœur. Tu sais, quand tu m'as parlé de telle manière et que tu as agi de telle façon, bien cela m'a brisé. Ça m'a fait mal. Ça m'a découragé même. Dites les vrais mots. Ça m'a porté même à abandonner, de plus lire la parole, de plus prier. Parce que je me disais, il me dit qu'il est un chrétien, qu'il est à la ressemblance de Christ. Puis si c'est ça qu'est le Christ, moi je trouve ça difficile, hein? Puis c'est ça qu'il faut réaliser. La manière que moi j'agis envers vous, envers mes frères et envers mes sœurs, il faut que je sois conscient de cela. Et c'est important. Ce sont tous des fruits d'une bonne conscience. Ces trois choses qu'on a vues, bénéficier de l'approbation de Dieu, avoir cette assurance en Dieu, avoir cette paix et cette joie. Ce sont tous des fruits d'une bonne conscience. Vous savez, moi, ce matin, je ne vous connais pas tous. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies. Peut-être qu'un matin, vous avez quelque chose contre quelqu'un. Ou bien sûr, vous ne lui en voulez pas pour lui casser les jambes. Mais ça vous dérange dans votre communion, ça vous dérange dans votre adoration, dans votre marche chrétienne. T'sais. Vous sentez que ça ne va pas bien. Alors moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai pour vous ce matin. Vous savez, le Seigneur ne nous donne pas jamais des paroles comme cela pour rien. Si vous avez été blessé, allez trouver ce frère ou cette sœur avec amour. Parlez-lui, hein. Parlez à cette personne. Et si ce matin, en vous parlant de ces choses, il y a un petit film qui s'est produit dans votre tête, que vous dites, oui, oui, je me rappelle tel frère ou telle sœur, il était venu pour me parler, je n'étais pas tout à fait d'accord avec, puis je l'ai reviré de bord. Ben, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Après la réunion, je n'attendrai pas la semaine prochaine parce que je vais l'oublier. Surtout les personnes comme moi, des patriarches, on oublie certainement des choses. Mais il faut le faire maintenant. Peut-être après la réunion, s'il y a quelque chose avec quelqu'un, allez trouver cette personne. Rétablissez ce lien. Rétablissez cette communion. Parce que vous savez, on a beau dire, oui, on veut évangéliser le monde. On veut que le Seigneur amène des âmes au Seigneur. Vous voulez les emmener dans un lieu où ce que c'est que vous allez les blesser, que vous allez leur faire mal, tout en passant par-dessus? Je ne pense pas que le Seigneur va bénir cela. Le Seigneur veut qu'on sonde nos cœurs. On a chanté ce matin, hein? Sonde-nous, parle-nous, purifie-nous. Et bien que le Seigneur purifie nos cœurs, qu'il sonde nos cœurs. Moi, je ne vous connais pas tous, mais le Seigneur, lui, il vous connaît. Il sait ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre vie. Alors que le Seigneur puisse avoir parlé à vos cœurs ce matin, on va prier. Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous nous plaçons devant ta parole. Ta parole nous dit qu'elle est une épée à deux tranchants. Elle est pour celui qui apporte la parole et elle est aussi pour ceux qui écoutent. Et ce matin, Seigneur Dieu, on veut que tu ouvres nos cœurs, que tu les sondes, que tu nous montres, Seigneur Dieu, s'il y a quelque chose dans notre vie, quelque chose qu'on a fait envers nos frères et nos sœurs qui les ont blessés, qui les ont déçus amèrement. On te demande de nous pardonner et donne-nous le courage, la force aussi d'aller et de demander pardon à nos frères et nos sœurs. Et si c'est quelqu'un qui nous a blessés, donne-nous le courage, la sagesse, l'amour de lui en parler. Parce qu'on veut que tout péché soit effacé et oublié. Et qu'ensemble, Seigneur Dieu, on se retrouve un peuple uni, ayant cet amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et aussi d'une foi sincère. Tu nous as parlé ta parole. Tu as quelque chose à nous dire à chacun de nous. Qu'il n'y ait pas personne qui quitte cette salle en se disant que c'était un bon message pour l'autre. Mais que chacun de nous, on puisse le prendre pour nous et l'appliquer dans nos vies. Seigneur, nous sommes conscients que bientôt nous serons devant toi. Nous serons dans ta présence. Nous avons hâte d'être avec celui qui a payé pour nos péchés. Nous l'adorons maintenant et nous voulons l'adorer aussi lorsque nous serons avec lui dans sa présence. Bénis, Seigneur Dieu, cette Église. Fortifie chaque chrétien, chaque chrétienne. Pour ceux qui souffrent, on te prie, Seigneur Dieu, de les accompagner, de les bénir et de les consoler. Et donne, Seigneur Dieu, à chacun de nous ta grâce. Comme c'était mentionné, de réaliser jusqu'à quel point tu nous as aimés, nous qui ne méritions pas ton amour, mais qui méritions vraiment d'être éloignés de toi pour l'éternité. Merci pour tant d'amour et aide-nous à manifester cet amour et cette grâce que tu nous accordes, en ton nom et pour ta gloire. Amen.